On est le 17 avril, chers auditrices, chers auditeurs, ça y est, la pression monte, on est à une vingtaine de jours de la grande soirée des 40 ans d'RCC sur le parking des commerçants, à commencer à partir de 18h, sans oublier le tirage au sort de la tombola à partir de 6h. Ça fait très Pierre Bernard, hein, cette affaire. Anto, comment ça va?
Je vois que t'as mis ta casquette américaine. Ça fait vraiment. Il y a un côté Steven Spielberg, producteur de l'événement en fait.
Ouais, enfin, Steve Spielberg plutôt. Voilà, là c'est la pression. Si on nous met une olive en première pression, on fait 8 litres. On a peur, on est stressé. Bien sûr, nous invoquons tous les dieux de la météo pour que nous passions la plus belle des soirées. J'ai déjà le programme, le menu des pompiers. On s'oriente vers hot dog et kebab et frites. On va se régaler. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril. La matinée est chargée. C'est pour ça que je parle très très vite. Nous sommes le lundi 17 avril. C'est le jour de la pensée. Malheureusement, pas philosophique. La pensée. Qui est la plante petite cousine de la violette.
C'est joli.
En 1524, le Florentin Giovanni di Verrazzano atteignait la baie de New York pour le compte de François Ier. On est vraiment des débiles hein, en France, parce qu'en fait, on l'avait. 1941, la Yougoslavie capitulait devant l'Allemagne nazie. En 1946... la Syrie devenait indépendante. En 1961, l'opération de la baie des cochons à Cuba commençait. Très, très bel échec des Américains qui essayaient de renvoyer sur les terres cubaines des farouches opposants au régime castriste. En 1975, les Khmers rouges prenaient Phnom Penh au Cambodge. Et là, commençaient des années compliquées pour les Cambodgiens. Et en 1964, Ford présente sa Mustang à la foire mondiale de New York. Hein, donc, c'est assez récent. C'est la journée mondiale des luttes paysannes et aussi, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Une bonne fête aux Evan, aux Marianne et aux Anissé. Je ne savais pas que ça existait. Hein. Je souhaite un joyeux anniversaire à Romain Grosjean, un joyeux anniversaire à Joey Fritzonga. On va parler de tennis incessamment sous peu.
Tout à fait,
un bon anniversaire à Maïwenn Lebesco. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la réalisatrice du film Police. Très, très bon. Excellent film. Je vous conseille d'aller le voir. Victoria Beckham. Joyeux anniversaire à Vicky. Poche. C'était Poche Spice hein, à l'époque. Et à Jennifer Garner, alias la série. Et aussi, c'était la copine de Daredevil qui meurt dans Daredevil. T'en souviens pas ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Bon, d'accord. Okay. Un 17 avril, Aimé Césaire.
À ne pas confondre avec Césaire qui fait de la musculation à Calvi.
Césaire hein. Coaching, rien du tout, non, rien à voir.
Même si on aime Césaire.
Aimé Césaire.
Aime César. Aime Césaire.
Grand poète dramaturge.
Grand poète, écrivain, homme politique aussi, puisque c'est lui qui avait parlé de génocide par remplacement de population.
Et de la négritude.
Exactement. Et aussi est mort un 17 avril, Benjamin Franklin. Nous sommes sur un début de semaine. Le SCB a réduit l'écart sur ses adversaires, sur Bordeaux, grâce à la victoire face à Annecy. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, à 15h, Boum Boum avec Paul Orsini et foot de sport avec nos amis Pierre, Jo, John. Voilà, nous vous remercions. Non, je rigole, bien sûr, il y a autre chose. Vous croyez que j'allais arrêter l'émission ? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est Storia Calvez avec Nicolas Bras. Ah, Nicolas, comment ça va ?
Ça va, merci.
Petit café, il est bien.
On est bien accueillis.
Il a pris, si vous ne savez pas. Alors, si on nous écoute à la mairie, il a pris des tickets de tombola. Donc, ce serait bien d'aller en acheter quelques-uns, hein, bien sûr. Nicolas, de quoi tu veux nous parler ?
Alors, aujourd'hui, on va parler d'un personnage calvé, un personnage historique, Giovanni Antonio de Vicentello.
Alors, c'est quelle date ?
Alors, on va se replonger tout simplement dans la même période dont on a discuté la dernière fois. Donc, je rappelle l'émission de la dernière fois, c'était « Pourquoi cette devise, Civitas Calvi, Semper Fidelis ?» On a un peu retracé l'époque donc, qui correspond à la moitié du XVIe siècle. Et là, on va parler plus précisément d'un personnage qui est l'un des plus illustres personnages de Calvi, si ce n'est le plus illustre.
Après François Colombagne ou quoi ?
Après François Colombagne.
Après François Colombagne. Oui, alors, je lui prête bien honneur au plus âgé. je lui laisse la plus haute marche sur le podium. Qu'a-t-il de si particulier, ce Vincenzo ?
Alors, il était... si on devait aujourd'hui comparer sa richesse, on ne pourrait peut-être pas le faire.
Ah, d'accord.
Alors, il est né, en 1518, sur la place d'Armes, donc juste en bas de la radio, de Vicente Lodeleca, qui était son père. Vicente, le prénom du père, de Leca, le nom, et de Bernardina de Frate. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les ruelles de la citadelle, il y a une ruelle qui s'appelle des Frates, qui est entre l'immeuble Jean Farani, qui amène en fait à l'oratoire.
D'accord. Donc, c'est celle-là.
C'est la petite ruelle.
C'est ça, c'est la petite. Toute petite Streta qui porte le nom de la famille des Frates.
D'accord.
Alors,
voilà.
En fait, il est parti très tôt de Calvi pour s'enrichir, en tout cas pour essayer de faire fortune. Son père était commerçant et il décide de suivre les pas de son père, mais lui de partir vers les Indes occidentales, c'est-à-dire vers les Amériques. Mmh. Les Amériques ayant été découvertes en 1492. Donc lui décide en fait de partir en Espagne, et plus particulièrement à Séville.
Séville qui est quand même très liée à l'histoire calvaise.
Et bien sûr, et ça on a tendance à le négliger. On parle souvent de Calvi, de Gênes,
Les processions calvaises sont calquées. Sur les grandes processions sévillanes.
Bien sûr, et il y a beaucoup de grandes personnes, de grands noms à Calvi qui sont encore enterrés, qui sont nés à Calvi, qui sont calvés et qui sont décédés à Séville et qui sont, par la force des choses, enterrés à Séville. On aura l'occasion d'en reparler pour d'autres personnages. Mais donc, il quitte donc Calvi pour Séville et il commence sa prospection aux Indes occidentales. Et là, il va au Pérou et il amasse une fortune colossale.
Alors, la fortune, elle vient d'où? Parce que je suppose que bon, c'était l'époque post-colonisation espagnole et portugaise de l'Amérique du Sud.
Bien sûr.
Donc, c'est quoi? On est sur de la spoliation d'objets précolombiens. Qu'est-ce qui se passe?
Pas tout à fait. On est sur la découverte d'épices. Mmh. On est sur la découverte d'or. On est sur la découverte de minerais. Et tout ça, si tu veux, va contribuer à installer un nouveau commerce. Donc, on est à peu près 68 ans, allez, on va dire 70 ans, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
D'accord. Voilà.
Donc, c'est très peu de temps. Donc, c'est l'un des premiers à avoir...
Un pionnier
à avoir mis les pieds au Pérou et à avoir pérennisé un système qui lui a permis de s'enrichir.
D'accord.
Pour le compte de la couronne d'Espagne. Et c'est là où, en fait, on apprend que, d'après les Pietro Filippini, qui est un chroniqueur de cette époque, donc il nous apprend, je cite, il dit « Il quitta Calvi pour Séville alors qu'il n'était qu'un pauvre marchand. » Et c'était le cas, c'était vraiment un pauvre marchand, un novice. Et aujourd'hui, donc à l'époque où il écrit ses chroniques, c'est l'un des hommes les plus riches de la chrétienté. C'est-à-dire que quand tu sais que quand il partait dans les Indes occidentales, donc aux Amériques, c'était l'évangélisation des peuples autochtones. Donc, il était considéré, réputé comme étant l'un des hommes les plus riches de la chrétienté. Et ça, il y a quelque chose qui l'atteste très spécifiquement, c'est que Charles Quint, dont
notre
on a parlé,
il était
fauché. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Guerres...
Donc, il se finançait...
Donc, il va tout simplement voir Giovanni Antonio... Et il demande à Giovanni Antonio de lui prêter de l'argent. Et il lui demande de lui prêter 5 000 pièces. Donc Giovanni Antonio le regarde tout simplement et il lui dit « Oui, pas de problème. Il dit, vous voulez comment? En or ou en argent ?»
Oui, donc il n'y avait pas de souci de trésorerie.
Il n'y avait pas de souci de trésorerie. Et c'est spécifiquement, mettre l'accent dessus, quand il y a un roi qui vient te voir en te disant « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» et que le roi lui répond, qu'on répond au roi « Tu les veux en or ou en argent ?» Ça montre un peu la puissance et l'importance du personnage.
Un petit peu comme quand Macron va voir la banque Rothschild. C'est ça. Oh, à quelques heures de la prise de parole du président. Oh là là,
c'est
ses propositions. Oh là là.
C'est quand même incroyable.
C'est bizarre.
J'entends donc ce fameux personnage né sur la place d'Armes à quelques mètres.
Il est bon le café, hein.
À quelques mètres d'ici dans les studios, part finalement en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou, fait fortune et est l'un des plus riches de la chrétienté.
De la chrétienté à l'époque.
Donc, à l'époque, c'était pas rien.
C'était pas rien.
Mais Calvi dans tout ça, quelles seront les retombées pour Calvi?
Bonne question. Alors là, on a de la chance d'avoir de ce personnage deux de ses testaments qui sont les plus importants. Et là où on voit qu'en fait, il n'a jamais oublié Calvi. Il n'y est plus jamais retourné.
Et il serait parti vers quel âge? Vers la majorité?
Il serait parti vers la majorité.
D'accord.
Il serait parti vers la majorité et ben, il a deux testaments. C'est
la majorité?
Bah, 18 ans, alors je sais pas, peut-être 21 ans.
C'est le sympa du PS.
Donc, deux testaments, un Pérouvien, un Sévillan.
Comme François-Xavier.
Comme François-Xavier.
Allez, on reprend le cours de l'émission.
Concentrons-nous.
Donc, il est parti aux alentours de 18 ans. rejoindre le Pérou. Et donc, pour Calvi, il y a deux testaments.
Pardon. Donc, deux testaments où on atteste du retour qu'il fera Calvi, parce qu'il n'y est plus jamais retourné physiquement. Donc il parle de Calvi en 1518. Enfin, il naît en 1518, il part 20 ans plus tard, et il n'y retourne plus. Donc le Corso, comme il y a marqué dans son testament, donc tu vois, on atteste encore de son île d'origine, de sa corsitude. Il effectue des legs, 9000 ducats, ce qui n'est pas rien. Qui sera dédié
au jour d'aujourd'hui, on a une idée de plus ou moins ce que ça représente.
Aucune idée.
Ce serait quoi?
Ce serait possible de le chiffrer.
Ce serait quoi?
De le chiffrer, mais c'est des millions.
Stop, là, il y a
pas
un truc à convertir de l'argent.
Alors vas-y, je continue. Si tu arrives à trouver la ducat, c'est vrai que j'ai pas pensé à la
ducat.
C'est alors pour l'instant là, on est sur le premier testament qui a été fait à la Ciudad de los Reyes. Aujourd'hui, c'est tout simplement Lima au Pérou.
D'accord.
C'est la capitale du Pérou. Donc c'est là où le Calvé s'était installé et était en poste. Donc 9000 ducats en tout. Donc la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, donc elle percevra 500 ducats. Le couvent franciscain, tu sais qu'il est à Pointe-Saint-François, dont on a déjà parlé la dernière fois, recevra la même somme. Et une somme supplémentaire de 1000 ducats pour sa reconstruction a été donnée, qu'il y a eu le siège des Turcs.
Ça doit être énorme.
Donc c'est énorme en fait. Il investit aussi 50 ducats pour l'église, la vieille église Santa Maria, qui est la petite église qui est au-dessus de la préfecture, qui était l'église de la basse ville.
Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, donc on n'est pas sur l'équivalent de l'époque, hein, à l'heure actuelle des ducats vendus sur le marché, c'est l'équivalent de 928 euros. Donc sur la base actuelle, c'est 8 millions d'euros.
Voilà. Pour te dire, c'est incroyable.
C'est conséquent.
C'est conséquent, c'est incroyable.
Il faut reporter. À l'époque, c'était certainement
énorme.
10 ou 100 fois plus.
C'était énorme. Donc, il investit beaucoup pour le patrimoine, il lègue beaucoup pour le patrimoine, mais sa charité, elle ne s'arrête pas au patrimoine. Il note que dans son testament, que 1000 ducats seront partagés entre des enfants orphelins de Calvi.
D'accord.
Il faut savoir qu'on sort de plusieurs sièges successifs et qu'il y a des orphelins. Donc, il dédie une partie de sa fortune aux orphelins. Donc 1000 ducats, 500 ducats seront aussi versés à des gens pauvres de Calvi. Donc il y a des exécuteurs testamentaires qui vont choisir des gens pauvres dans Calvi en leur donnant de l'argent.
Et on a la ça a été fait, on a l'assurance
que ça a été fait dans son second testament, lui pour le coup qui a été fait peu avant de mourir. Donc on a la date précise, le 17 avril 1587 à Séville. Avant de mourir, donc il n'oublie pas Calvi, il redonne encore des sous au couvent Saint-François. Et là, on se rend compte qu'il a un attachement particulier au couvent, puisqu'il donne énormément d'argent pour le couvent. Et il se peut que dans son enfance, il ait été au couvent, instruit, parce que c'était un lettré et qu'à l'époque, c'était les franciscains qui apprenaient à lire et à écrire.
D'accord.
Donc il se peut que cet attachement que l'on voit, en tout cas dans ses testaments, s'explique par ça. Il décide encore d'affecter 4000 ducats à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui a été détruite à l'explosion de la Poudrière en 1567. Donc 1567, explosion de la Poudrière. Après l'explosion de la Poudrière, destruction de la cathédrale. Et là, il décide de réaffecter une somme pour reconstruire en partie la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et là, il se tourne vers la confrérie Saint-Antoine. Et il verse 200 ducats à la confrérie pour son oratoire, pour la construction de son oratoire, pour l'ornement de... Voilà. Alors, des traces actuelles des dons, il ne reste pratiquement plus rien.
Ok.
Voilà. Il ne reste pratiquement plus rien. Les deux seules choses qu'il reste, c'est le baptistère en marbre de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, que l'on voit quand on rentre de suite sur la gauche, en grillagé. C'est le baptistère en fait qu'il a fait reconstruire et il a fait noter inscrire ses initiales sur le baptistère.
Ok. Voilà. Donc ça, c'est la dernière trace.
C'est la dernière trace. Et dans son testament, il lègue en fait le terrain de l'hôpital militaire en disant qu'il veut construire dessus un mont de piété, donc un hôpital. Donc cet hôpital qui a été construit donc, au XVIe siècle, il a été pérennisé dans le temps. Les Français, quand les Français prennent possession de la citadelle, ça devient un hôpital militaire. Et c'est toujours resté un hôpital jusqu'à l'époque moderne. Est-ce qu'il ne soit plus occupé ? Donc sa volonté testamentaire qui a été faite au XVIe siècle, elle a été respectée même après les occupants alors, successifs de la citadelle.
Moi j'ai une question, parce qu'il disparaît à Séville. Est-ce qu'on a les causes, donc vieillesse ou...
Vieillesse, oui. Ouais,
est-ce qu'il a des descendants ?
Il a des descendants.
Est-ce qu'on a une trace d'eux ?
Aujourd'hui ? Non, aujourd'hui non.
Non.
On sait qu'il y a eu des descendants jusqu'au XIXe.
D'accord.
Donc on est en 1837... C'est les derniers descendants que l'on a.
Ok.
Voilà, on est dans l'époque moderne, ça commence à en perdre la trace.
Donc un bienfaiteur qui est parti clairement aux Amériques, qui est devenu richissime dans des mesures quasi disproportionnées pour l'époque.
Pour l'époque disproportionnée. Surtout si on compare maintenant.
Oui, surtout s'il finançait le concurrent du roi de France, donc c'est pas rien. Hein, si c'était la banque de Charles Quint. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce personnage ?
On peut savoir que, on peut déjà savoir que, en fait, il y a des personnages importants à Calvi, qui ne sont pas forcément connus.
Oui, parce que en fait, moi, c'est, j'en avais entendu parler et tout, mais clairement, ce qu'il avait fait, son histoire et tout, voilà.
C'est un bienfaiteur et il a beaucoup fait pour le patrimoine. Aujourd'hui, un baptistère en marbre de cette qualité de finition, quand on sait que des historiens de l'art se penchent dessus, font des parties de livres sur ce baptistère en marbre bien spécifique, qui a coûté à l'époque 300 ducats. Donc 300 ducats, c'est énorme. Le baptistère en marbre en lui-même, c'est des gens qui ont fait fortune et qui, par leur fortune, n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Donc ils se sont toujours retournés à Calvi, même si physiquement, comme je te l'ai dit, il n'est jamais revenu à Calvi. Giovanni Antonio a toujours pensé à Calvi. Il a donné des milliers de ducats pour sa ville. Et c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure avec Anto, c'est que Séville, c'est peut-être un Calvi bis. C'était un Calvi bis. Mais aujourd'hui, tu te promènes, tu dis ce que tu sais que Calvi, que Séville est attaché viscéralement à Calvi, on te dit...
Ouais, je ne savais pas.
Non, mais on ne savait pas. Il faudrait peut-être,
c'est vrai.
Ouais, peut-être réfléchir. Tu sais, souvent, il y a les jumelages. Sais.
D'ailleurs, ma mère, l'autre jour, elle m'a fait une réflexion. Elle me dit, t'as vu les images en Espagne ? On dirait Calvi. Tu as vu ?
Alors, voilà. Il faudrait...
Mais il y a beaucoup de choses. Ouais.
Je propose...
Pour les processions, je parle. Hein.
Oui,
alors, c'est
bien
une proposition RCC.
C'est
une proposition RCC. Jumelage avec Séville. Voilà, on va proposer au prochain conseil municipal jumelage avec ses
villes.
On pourrait, ce serait extraordinaire. D'ailleurs, la Vierge du Rosaire, qui est chère à tous les Calvés, que l'on sort la Semaine Sainte, elle vient de Séville.
Voilà.
Et elle correspond à cette période.
Alors, si vous nous écoutez.
Et je me propose de me déplacer à Séville moi-même pour créer les liens, bien
sûr. Pour aller voir un match aussi, à mon avis.
Un financement. Hein, voilà, je me propose. Donc, est-ce qu'on en a fini ?
Et on en a
terminé. On en a fini. Nicolas, de quoi on parle le mois prochain ?
On va parler de Don Juan. On va parler d'un personnage qui est calvé par son père et de Montemajor et par sa mère.
Non, Don Juan
et
Balanin.
Moi, je la connais.
Et Corse.
Tu la connais ? Voilà. Alors, Don Juan, alors... Il y a aussi, on en parlera le mois prochain, mais...
je sais de Montemajor.
Voilà, je sais, c'est pour ça que c'était la petite...
La petite beauté que je suis quand même.
Non, alors, il s'est inspiré de Don Juan, parce qu'il y en a qui disent que l'histoire s'est inspirée du personnage, c'est pas du tout le cas.
D'accord.
C'est lui qui s'est inspiré du personnage en ayant été voir un jour Don Juan.
Ok, d'accord.
Tirso de Molina. Et on va parler de sa rocambolesque venue à Calvi en cachette.
En tout cas, je sais où se trouve le balcon.
Est-ce qu'il aurait séduit, finalement, Don Juan, une calvaise lors de son passage ?
Alors, une fille de Montemajor, qui plus est, quelqu'un de sa famille.
Ah, d'accord. Oui,
c'est un peu glauque, là.
Mais bon, c'est une histoire vraie et elle a le mérite d'être racontée, puisque, encore une fois, c'est pareil. C'est un personnage qui est très important d'un point de vue historique et qui est de Calvi.
On ne juge pas, hein, dans le Nioul où c'est courant. Hein. C'est une blague, c'est une blague.
Jean-Albertine.
C'est une blague.
D'où le gnôle aux zones libres, c'est ça, hein.
C'est dans le nord de la France, allez.
Libertin, libertin.
Je renvoie le problème, je renvoie le problème. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, sur ce, on en fait, a terminé, oui, la semaine prochaine.
Je voudrais profiter de ce temps de radio pour passer un petit message de rétablissement à notre archiprêtre, qui est très fatigué et qui est à Bastia pour des examens. Et voilà.
On l'embrasse.
On pense à lui, on l'embrasse.
Bien sûr, on envoie toutes nos meilleures ondes.
Prompt rétablissement.
Et on souhaite un prompt rétablissement.
Et il va nous revenir plus,
plus beau, plus fort. Et j'espère le plus vite possible. Merci Nicolas.
Merci à vous.
C'est toujours un plaisir. On a hâte déjà d'être à la semaine prochaine, le mois prochain. Moi, je trépigne d'impatience.